Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour.
Bonjour.
Voici venu le moment tant attendu de votre émission franco-italienne des Transméditerranéennes. Alors bonjour Barbara.
Salut, salut.
Bonjour Marcel.
Bonjour.
Aujourd'hui, grâce à vous, nous allons découvrir des villages particulièrement intéressants, puisqu'il s'agit des villages qui bordent la route du sel. Je vais donc vous laisser la parole à Marcel en priorité.
Nous allons faire la découverte d'une partie de cette route du sel que Barbara, tu avais évoquée lors de notre visite de Chèvres et de ses environs. Si. C'était autrefois la route de liaison entre Comté de Nice et Piémont. Depuis l'Antiquité, le sel permet de conserver le poisson, hareng, morue, ainsi que la viande, la charcuterie, le fromage, les olives, toutes les bonnes choses du sud ou du nord. Et on en trouve évidemment du côté de la mer. Donc en Italie, la Via del Sale, ce sont les parcours utilisés par les marchands. La autoroute du sel dont nous allons parler est une piste. Elle serpente à plus de 2000 mètres d'altitude sur une vertigineuse ligne de crête entre France et Italie.
Sì, allora questa è l'Alta Via del Sale, che si chiama in italiano, ed è veramente spettacolare, una strada bianca, ex militare, che collega le Alpi piemontesi e francesi al mare Ligure. E si snoda effettivamente, come dici Marcella, tra i 1800 e i 2100 metri di quota, lungo lo spartiacque alpino principale, presso il confine italo-francese, quindi attraversa a mezza costa i valichi alpini, torrenti e dei passaggi anche piuttosto arditi, piuttosto difficili.
Sì.
Bien, ça a l'air assez impressionnant tout cela.
L'avventura.
Sì. E il faudrait nous en dire un peu plus quand même. Hein?
Bien volontiers. Une petite précision, il n'existe pas une unique route du sel.
Esatto.
Oui. Chacune des diverses peuplades émiliennes, lombardes et piémontaises avait un réseau de sentiers pour amener les marchandises. Alors on peut citer la laine, les armes, entre la côte et leur région, récupérer le sel donc en bord de mer, qui est, je l'ai déjà dit, indispensable pour la conservation d'aliments sur une longue période. Mais on n'oublie pas les activités artisanales, le tannage des peaux et la teinturerie, en premier sur les activités de ces régions. Nous allons nous intéresser à quelques lieux exceptionnels sur ce parcours. Cette fois-ci, nous allons rester dans les villages aujourd'hui français, parce que certains ont été italiens. On ne va pas aller plus loin pour l'instant.
Effettivamente, inizialmente nel passato, in Alta Via del Sale era una via di collegamento tra la Provenza e il Piemonte. Oggi è un magnifico circuito ricco di panorami e di paesaggi da contemplare, veramente anche per le persone che non camminano, diciamo, molto, che non sono proprio dei trekker, si può fare.
Bien, donc cette route du sel, on peut la faire à pied.
Sì.
Juste pour comprendre, la laine et les armes venaient de la montagne et le sel venait de la mer. C'est ce que vous nous avez dit, en gros.
Oui.
Bien, alors, vous m'intriguez, parce que ces villages, je crois qu'ils sont restés italiens jusqu'en 46,
si, ou 47. Si.
Donc, allons-y.
La plupart.
Alors, allons un peu plus loin, là, s'il vous plaît.
Dai, Marcel.
Bon, alors, je vais partir de Tende. Le village médiéval de Tende, qui est caractérisé par des toits en lauze verte. Ça, c'est typique de la région. Et des balcons en bois sculpté. Les balcons, les encadrements de fenêtres sont décorés de cette pierre verte sculptée ou gravée, et parfois d'ardoise. On parcourt des ruelles étroites, des escaliers abrupts. À partir du XVIIe siècle, avec l'ouverture de la route royale, dont le parcours coïncide avec celui de l'actuelle route nationale. Le village s'étend même en dehors des remparts médiévaux. Si on emprunte la rue de France, on va traverser un peu, Tende, on découvre la maison Chionea, la porte d'Italie et Notre-Dame de l'Assomption. Alors c'est la cathédrale, commanditée par Giovanni Antonio Lascaris à la fin du XVe siècle. Il faut aller voir la façade, Barbara.
Ah, elle est magnifique, elle est superbe. Ah.
C'est un magnifique portail de schiste vert, sculpté dans le goût de la Renaissance. De chaque côté, deux colonnes. Les socles sont constitués par des lions couchés et ils soutiennent un linteau sculpté représentant le Christ et les 12 apôtres. Puis, il y a un tympan semi-circulaire qui porte une Assomption. Alentour, on devine les vestiges de fresques. C'est vraiment très beau et un peu mystérieux, hein, parce que les fresques, le temps a passé. Voilà, on a vraiment des impressions, des morceaux. Le parcours est riche en points de vue. On admire des chapelles, des panoramas remarquables. On devine la richesse apportée par ces routes commerciales lorsqu'on découvre tous ces trésors.
Beh, Tenda è veramente una scoperta in ogni stagione, non è che voglia fare la pubblicità, ma è veramente meraviglioso. Ci sono dei paesaggi sontuosi, montani, bellissimi, dei luoghi pittoreschi e un passato molto tormentato in cui si mescolano generi e stili di architettura sempre in armonia con la storia. Ma al di là del delizioso borgo medievale che è arroccato, che è bellissimo, no? E delle sue strade, come dicevi tu, tutte così tormentate, anche quelle pavimentate di cui hai già parlato tu, Marcella, sono secondo me da visitare il Museo Dipartimentale delle Meraviglie, che è veramente super interessante.
Sì, è vero.
La casa del parco, la casa del miele e dell'ape e la miniera d'argento di Vallauria, al borgo della miniera, che c'è effettivamente, io non ci sono ancora andata, ma mi ha incuriosito tantissimo, un circuito sotterraneo di 900 metri. È una miniera che è dura, cioè c'ha una lunghezza, penso, di quasi, mi sembra, tra i 3 e 4 chilometri, e ce ne sono 900 che sono visitabili.
Effectivement, il y avait des mines, ouais. Notamment Saint-Dalmas de Tende, il y avait des mines, et c'est pour ça que la gare de Saint-Dalmas est aussi grande que celle de Nice. Je sais pas, pour ceux qui sont passés, vous verrez une gare monumentale pour deux raisons, parce que c'est la dernière gare italienne avant la France. Et puis, c'est vrai qu'il y avait les mines à exploiter. Alors, vous nous avez donné envie d'aller à Tende, et ensuite, on continue
En descendant, nous allons nous arrêter à la Brigue. Il faut passer un petit pont et rouler un petit peu. Alors, la Brigue, c'est tout le charme d'un village médiéval de montagne. Chevauchements sculptés en bas-relief, façades peintes, bâtiments baroques racontent la splendeur d'antan. Parce que ça a été un lieu, pour les mêmes raisons, commerciales, de passage, qui a été un lieu important. Donc la Brigue comprend le hameau de Morignol, et a été jusqu'en 1947 le chef-lieu de la commune italienne de Brigue Maritime. Entre le XIVe et le XVIe siècle, la Brigue, c'est ce que j'évoquais, a été un croisement important entre les trois chemins muletiers des vallées. Oui, Roya, Tanaro et Nervia. Donc, on comprend qu'à cette époque-là, c'était un centre de rencontre. La commune s'étendait sur les crêtes des trois vallées et sur tout le bassin de la rivière Levenza, affluent de la Roya, là où les conditions étaient favorables pour le développement d'une ville et du commerce. Voilà. On cerne ce qui a fait d'endroits qui paraissent des petits villages, des centres importants et riches.
Alors, juste pour information, c'est par la Brigue qu'aujourd'hui les habitants de la Roya, de la Haute Roya, passent pour aller en Italie, puisque le tunnel est toujours fermé.
Ah oui, le tunnel est toujours
donc
fermé.
Donc en fait, il y a la piste forestière qui sert à rejoindre l'Italie.
Mais comment ? À pied ?
Non, on peut y passer en véhicule. Ouais. C'est autorisé seulement pour les habitants.
Pour les habitants
de Tende, de la Brigue,
oui,
de Sarge.
De la zone.
Juste de la zone. Mmh. C'est tout. Il n'y a qu'eux qui sont autorisés. Mais ça leur permet de rejoindre l'Italie.
Une circulation contrôlée.
Oui, c'est une circulation contrôlée. Mmh. Et c'est une piste. Hein. Et ce n'est pas goudronné.
Ah oui.
Donc, merci pour les amortisseurs. Voilà, on continue.
Comme quoi les routes du 15e siècle
la route du 15e siècle
peuvent être utiles quelques siècles après. Eh bien oui, à cette période, la Brigue compte 7000 habitants, avec une économie florissante. Alors elle est fondée sur le pastoralisme, l'agriculture et le commerce de produits laitiers et la laine. Et vraiment, je peux vous conseiller de visiter le musée qui raconte cette vie pastorale et la vie au quotidien des Brigasques. C'est vraiment un musée très intéressant. Et à retenir, la race de moutons, le Brigasque, voilà, qui est particulier à ce coin-là. On peut aller jusqu'à la place Saint-Martin, sur laquelle se trouve la collégiale de style roman-lombard, qui héberge de nombreuses œuvres remarquables, remontant au XVIe siècle. Voilà. Alors, il y a la chapelle de l'Assomption de style baroque, avec un orgue portatif du XVIIIe siècle. Ensuite, on peut emprunter la rue Philippi, bien tortueuse, pour arriver aux ruines du château des Lascaris. On en a entendu parler à Tende. C'était une famille qui régnait sur la région. On redescend dans le bourg, on peut admirer de nombreux linteaux typiques, les architraves en ardoise sculptées, avec des images de caractère religieux ou philosophique. Et ensuite, on a le pont du Coq et une route qui mène au sanctuaire Notre-Dame des Fontaines. Elle est surnommée la chapelle Sixtine des Alpes du Sud. C'est bien mérité, hein, parce qu'il y a de magnifiques fresques de la fin du XVe siècle qui représentent la Passion du Christ, quelques scènes de la vie de la Vierge, les évangélistes, les pères de l'Église, le jugement universel. C'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire.
Oui, senz'altro, sì, no, io non l'ho visitato personalmente, ma mi dai voglia di andarci. Beh, una cosa che mi aveva colpito è che fra i diversi monumenti da non perdere alla Briga Marittima, che tu hai menzionato il ponte Pont du Coq,
sì,
il ponte del Gallo. Questo ponte è una vera prodezza tecnica, perché in effetti questo ponte risale al XV secolo ed è stato ricostruito nel 1710 perché una piena del fiume, l'Evenzo, l'aveva distrutto. E è stato elevato come monumento storico già a partire dal 1987 ed è perché è fatto ad angolo. Questa particolarità è dovuta al fatto che il ponte collega due rive che sono molto differenti, sono dissimili. Una è bassa e larga e la a destra, quella a destra, e bruscamente ripida la riva sinistra. Quindi l'hanno fatto in questa maniera. È veramente spettacolare, particolare. Ecco.
È molto bello da vedere.
C'est vrai que c'est un des rares ponts. Je suis maçon, une famille de maçons.
Ah oui.
C'est un pont qu'on qualifie de génois. Je ne sais pas s'il est génois, mais en tout cas, c'est exceptionnel. Même en Italie, j'ai rarement vu des ponts comme ça. C'est
oui,
vraiment à voir. Et avec la chapelle derrière, les deux valent le coup. Quant à la race brigasque, effectivement, c'est une race de moutons que l'on retrouve qu'à la Brigue ou au Piémont ou aussi également en Ligurie. Mais ils n'ont pas le même nom. J'ai plus en tête les noms piémontais.
Qu'est-ce qu'ils ont de particulier ?
Je vous donnerai à la prochaine. Ils ont le museau très allongé.
Ah,
ils ont une tête très différente des autres. Et ils ont une laine aussi particulière.
Ce qui fait la notoriété de la laine.
Bien. Vous avez parlé de très belles choses. La chapelle Sixtine des Alpes du Sud, plus le pont du Coq. On va continuer à promener.
Eh bien, je vous emmène à Saorge. Alors, la route la plus indiquée et celle qui monte de fond en temps, avec des passages à couper le souffle le long des falaises. Après l'hôtel de ville, on arrive à Chapagne, le nom de la place en dialecte local. Une véritable terrasse sur la vallée. De là, on emprunte la carrière de l'Enchise. Elle est appelée ainsi car en 1436, il fallut briser la roche pour la construire. Ensuite, on prend la carrière à Soutane et on arrive à la chasse à Soutane. Des escaliers raides mènent au niveau moyen du village en passant par le four communal, et on arrive au couvent franciscain. C'est un modèle d'architecture monastique baroque, bâti à la moitié du XVIIe siècle. C'est encore une fois magnifique. On arrive dans un cloître rectangulaire. Il est fermé sur le côté nord par l'église Notre-Dame des Miracles et sur les deux autres côtés par les bâtiments à deux étages du couvent. Les parois du cloître sont couvertes de fresques sur la vie de Saint François d'Assise. Il y a des cadrans solaires, des fresques aussi dans la salle à manger. C'est vraiment à voir. Et on peut ensuite aller dans le jardin avec ses bassins d'arrosage, ses pergolas couvertes de vignes. Si vous y allez en septembre, le raisin est délicieux. On ne le prend pas tout seul comme ça. Hein.
Mais comment tu sais qu'il est délicieux donc
Tu sais, tradita.
Parce que avant la fermeture saisonnière, la personne qui est à l'accueil en propose avant qu'on quitte les lieux. Okay. Voilà.
Okay.
Oh oui, il faut rendre des comptes.
No, hai ragione perché Sorge è veramente un monumento in se stesso, con il suo villaggio che direi un po' tibetano, l'anfiteatro che è aggrappato alla montagna sopra le gole della Roia e della Bendola. Un circuito che mi sembra molto interessante da vedere è il percorso di scoperta di Saorge e dei mestieri della Via del Sale. Questo percorso è segnalato da 8 figurine in acciaio che sono strettamente legate al patrimonio storico di Saorge ed è stato realizzato dalla Comunità d'Agglomération della Riviera Francese. Ed è un itinerario molto simpatico da fare, veramente, che inizia nel parcheggio superiore est del villaggio, dove sarete accolti dalla figurina francescana numero 8, e poi si parte alla scoperta delle altre figurine indicatrici dei mestieri d'Anton, quindi taglia pietre, la molesteria, eccetera, eccetera. Si tratta di un delizioso circuito di circa 3,5 km, e bisogna contare 2 ore, direi 2 ore e 30 di camminata, ma vale la pena, vale la pena.
Sì. C'est vrai Barbara que Saorge a un côté tibétain, tu as raison. Ce qui m'étonne c'est que ni l'une ni l'autre vous n'avez mentionné la fresque en l'honneur des partigiani italiani et des partisans français à l'intérieur du village. Et une fresque qui était en l'honneur des gens qui se sont battus pour la liberté, d'un côté comme de l'autre, et qui est surtout en l'honneur de la paix, espérant qu'il n'y aurait jamais plus de guerre. Bon, c'est un espoir qui a été déçu, malheureusement.
Merci.
latte, vino e pane. Io ti offro anche la fame e un volo d'api che viene da lontano per fare miele del tuo sangue amaro. Sale. Oh, 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 la via del sale. Oh, 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 la via del sale.
Continuons à découvrir de magnifiques endroits.
Eh bien, on redescend et on va à Breil-sur-Roya. Alors, c'est le centre urbain le plus important de la Roya. La partie la plus ancienne de Breil se trouve au sud du village. On se balade, mais toujours dans des ruelles étroites, avec de petites boutiques qui évoquent vraiment le Moyen-Âge. Restent quelques témoignages du passé de bourgs de frontières. Les restes de l'enceinte d'une forteresse et de la tour de guet, dite la Cruella.
Poi, sì, poi il versante orientale, all'interno delle mura, è coperto di alberi di olivo.
È molto bello.
Sì. Allora, ci sono sei mulini e Breil è stato durante secoli uno dei principali centri di produzione d'olio d'oliva per la casa di Savoia, eh? Questi olivi sono splendidi. E poi si passa la porta medievale di Genova e si cammina fino alla cappella Sant'Antoine l'Eremite, Sant'Antonio l'Eremita, e al ritorno fino al lago artificiale, no? Fare una passeggiata fino al lago artificiale, si chiama il lago dei Cini, molto romantico, che è una bella realizzazione nel cuore proprio di Breil.
Bien, nous allons toujours continuer, hein, pour découvrir encore quelques perles de cette haute Roya.
Quelques remarques sur cette région. On a bien compris que les richesses culturelles, architecturales de ces villages sont dues aux voies commerciales. Depuis le XXe siècle, d'autres moyens de transport des marchandises, la transformation de l'économie rurale, ont eu raison des routes du sel. sauf pour ce que tu as évoqué, Barbara, des randonnées. Donc oui, elle reste des circuits pour les marcheurs. Et les villages sont restés vivants et dynamiques. Mais je voulais quand même évoquer une terrible nuit, celle du 2 au 3 octobre 2020, où la tempête Alex a dévasté la Roya. Un moment vraiment terrible. L'équilibre a été rompu avec la destruction des routes, des ponts, d'habitations, de commerces. Des familles ont dû quitter ces lieux. Casterino, qui est l'accès à la Vallée des Merveilles, qui est à visiter une fois qu'on a... avant ou après la visite du Musée des Merveilles. Et donc Casterino n'a plus été accessible pendant deux ans. Et il y a eu encore des soucis d'accès. Voilà. Solidarité et volonté de faire revivre ces lieux ont fonctionné. Il y a eu des travaux. Tout n'est pas fini. Mais la vie a repris avec des temps d'échange et de culture. Voilà, je voulais parler aussi, depuis 2018, du Festival des Passeurs d'Humanité. Et tu avais envie de parler, Barbara, d'un autre festival.
Parlando di scambi culturali, Marcella, sì, effettivamente, se si programma una visita a Bray in occasione di una festa, non si può perdere la festa della Staccada, che è una manifestazione che si svolgeva con cadenza quadriennale, ogni quattro anni, l'ultimo giorno della settimana di Carnevale. Poi dal 1960 è celebrata la terza settimana di luglio. Si tratta di una festa in costume, che mette in scena un'insurrezione popolare contro i soprusi dei potenti, con tutta una serie di personaggi ricorrenti dentro la manifestazione, che è effettivamente come dire, molto toccante da un punto di vista di vissuto, perché si vive proprio. È in luglio adesso.
Cette tradition vient du fait que au Moyen Âge, le seigneur des lieux avait le droit de cuissage et que les Briouas se sont révoltés contre c'est ça qui est fêté tous les quatre ans contre le despotisme, le pouvoir de cet horrible personnage.
Et c'est merveilleux qu'il soit resté,
c'est
tradition.
C'est le premier MeToo, quoi.
J'allais dire un combat féministe qu'on fête régulièrement depuis.
Alors, après cette remarque, sur Bray, c'est bizarre, vous ne m'avez pas parlé du hameau de Libre. Et moi, j'aurais bien aimé, mais peut-être que c'était trop, vous n'aviez pas le temps.
Mais une prochaine fois, parce qu'il faudra faire un parcours aussi côté italien.
Voilà.
Et, tout ça,
et là, on pourra y rajouter Libre.
C'est vrai. Qui est quasiment en Italie.
Oui, voilà. On peut se permettre de le grouper avec des villages italiens.
On va passer à la recette.
Évidemment.
Alors la recette, là, elle s'impose. C'est les barbajoins. Alors c'est pour rapidement, c'est comme un ravioli frit, mais avec des blettes, non pas avec de la viande. Alors pour le barbajoin, il faut 250 g de farine, un demi paquet de levure chimique, un demi ou trois quarts de bol d'eau tiède, un peu de sel.
Traduco per chi vuole provare questa ricetta. I barbagianni, allora, che sono, come dice Tino, come dei ravioli fritti. Mi viene l'acquolina in bocca solo il pensiero. Allora, per la pasta, 250 g di farina, mezzo pacchetto di lievito chimico, una mezza tazza di acqua tiepida e un po' di sale.
Pour la farce, deux paquets de petites blettes, deux œufs entiers, 100 g de parmesan râpé, trois oignons, une petite tasse de riz, sel et poivre.
Per il farcito, quindi due pacchetti di bietole, donc due pacchetti, due mazzi di bietole piccoline, due uova intere, 100 g di parmigiano grattugiato, tre cipolle, una tazza piccola di riso, sale e pepe, quanto basta.
Pour la préparation, faire cuire le riz dans l'eau bouillante salée pendant 5 minutes, égoutter et mettre de côté. Bien laver les blettes, les faire blanchir dans l'eau salée 10 minutes, puis égoutter et retenir. Dans une poêle, faire dorer les oignons, couper fin, les couvrir pour qu'ils cuisent bien et blondissent. Quand les oignons sont prêts, mettre les blettes cuites, bien égouttées dans la poêle avec les oignons, bien mélanger durant 5 minutes, puis laisser refroidir.
Sì, allora, per quanto riguarda la preparazione, il cuocere il riso durante soltanto 5 minuti, poi scolarlo e metterlo da parte, poi lavare le bietole, farle bollire nell'acqua salata per 10 minuti, scolare e mettere da parte, poi in una padella fare dorare le cipolle tagliate finemente, coprirle in modo che cuociano bene, dorandosi insomma, e quando le cipolle sono pronte mettere le bietole ben cotte e ben scolate nella padella con le cipolle e mescolare insieme per 5 minuti e poi lasciare raffreddare.
Pour la pâte, mettre dans un saladier la farine, une pincée de sel, la levure et rajouter de l'eau tiède au fur et à mesure, mélanger la cuillère et finir de pétrir à la main huilée pour obtenir une pâte souple et qui ne colle pas. Faire une boule et laisser reposer.
Allora, per la pasta, la pasta, quindi mettere farina, sale, il lievito, aggiungere l'acqua tiepida a poco, quindi mescolare bene, impastare alla mano e come dice Tino, con dell'olio, chiaramente, per impedire che la pasta soffice, che diventi una pasta soffice e che non incolli. Dopodiché fare una bella palla e lasciarla riposare. Non si mette in frigo, no. La lasci riposare. Sì. Ok.
Sì, couverte avec.
Coperta. Mm.
Ensuite, dans un saladier, mettre les blettes, les oignons, les œufs, le parmesan, le riz et le sel et le poivre et mélanger.
Da mettere nell'insalatiera dunque le bietole, le cipolle, le uova, il parmigiano, reggiano, il riso, il sale e pepe e mescolare il tutto.
Reprendre la pâte et la couper en petites parties et l'aplatir au rouleau ou à la machine taille numéro 4 et numéro 6 pour la faire la plus fine possible et faire des bandes d'environ 10 cm de largeur. Sur ces bandes de pâte, mettre à l'aide d'une cuillère des petits tas de farce en double rang. Puis recouvrir d'une autre bande de pâte, aplatir les bords avec la roulette, couper en séparant deux petits tas de farce, puis pincer les deux bouts et tourner le milieu pour faire un nœud papillon. Faire un nœud papillon, oui.
Non, così sembra complesso, mi fa pensare i tortellini, ma va bene. Allora, si riprende la pasta, si deve tagliare in piccole parti che bisogna appiattire col mattarello o con la macchina per fare la pasta. Hai dato i numeri, taglia numero 4, poi 6 per farla fine. Poi tagliare delle strisce di circa 10 cm di larghezza. Su queste bande mettere il farcito in doppia fila, poi si ricopre con un'altra banda di pasta, si appiattiscono i bordi e con la roulette, si dice roulette anche in italiano, non mi viene il nome in italiano, si taglia per separare i due blocchi dunque di farcito e poi si stringono i due estremi e poi bisogna fare in mezzo, bisogna girarlo per fare un nodo a farfalla, le nœud papillon, come si dice.
Dans une poêle, mettre de l'huile. Alors là, il y a marqué arachide, mais on peut mettre de l'huile d'olive, c'est pas mal.
C'est
meilleur. Alors 2 cm à peu près d'huile. Lorsqu'elle est chaude, mettre les barbajoins, faire cuire d'un côté et de l'autre jusqu'à ce qu'ils dorent environ 5-7 minutes. Les retirer au fur et à mesure, les mettre sur du papier absorbant, à déguster chaud ou froid, avec un mesclun aillé, un délice. Ah. Moi, je rajouterais avec un vin du Piémont, un barbaresco, un dolcetto.
Certo, sicuro. Allora, è chiaro idea. Che dopo aver fatto questo giro ingegnoso di fare il nodo farfalla, quindi bisogna metterle nell'olio, di preferenza, come veniamo di dire, d'oliva e farle cuocere da una parte e dall'altra circa 5-7 minuti, e una volta ritirati, quindi bisogna togliere l'olio eccedente su della carta assorbente, e quindi si può mangiare freddo o caldo con un buon bicchiere di vino. Lascio a Tino perché io non conosco i vini, comunque un buon vino piemontese, e poi e con una miscela di insalate miste.
Sì.
Ed è delizioso.
Buon appetito.
Te lo credo, buon appetito, sì.
A bientôt, au revoir.
Au revoir.
Beh, oui, allora, arrivederci a tutti quanti, grazie mille.